Alors, comme il est bon ce matin d'être dans la présence du Seigneur avec le peuple de Dieu rassemblé dans ce lieu, c'est le dimanche, c'est vraiment l'occasion de pouvoir se rassembler ensemble. Et je remercie le Seigneur parce qu'il a été vraiment bon pour nous. On connaît nos faiblesses, nous savons quels sont nos combats. Et malgré tout cela, eh bien, nous remercions le Seigneur parce que le sang de Christ efface tous nos manquements lorsque nous nous repentons et que nous les confessons. Il nous connaît par nos noms, il nous aime et il fait de nous ses ambassadeurs afin que le monde dans lequel nous vivons puisse recevoir sa paix. Et je vous ai invité à tourner avec moi dans Samuel, la première épître de Samuel, au chapitre 1. J'aimerais partager quelque chose avec vous ce matin qui, je crois, être très pertinent pour cette nouvelle année 2014. J'aimerais que nous regardions ensemble pourquoi Dieu n'a pas répondu à certaines des prières qui sont montées devant le trône de sa grâce. Et j'aimerais dans un deuxième temps, si l'occasion, si le temps nous le permet, de partager également l'intention de Dieu face à une société qui a dépassé les limites, moi, de ce que j'appelle d'une saine démocratie. D'une saine démocratie où chacun fait ce qui lui plaît. Et quand je parle d'une société qui a dépassé une saine démocratie, je parle d'une société qui a les yeux complètement rivés sur les droits des gens et non pas sur les devoirs, finalement. Et on baigne dans ce genre de société. Alors, j'aimerais regarder parce que l'Ancien Testament nous a été donné en exemple pour comprendre finalement certaines situations que nous sommes appelés à vivre en tant qu'individus, mais aussi en tant que famille et nation. Il nous montre la façon de vivre à laquelle Dieu, eh bien, appelle son peuple et la manière dont ce monde vit qui est contraire à celle de Dieu. L'Ancien Testament n'est pas juste un récit d'histoire, c'est beaucoup plus que cela, car à de nombreux endroits et dans tous les livres de l'Ancien Testament, nous voyons la présence de Jésus-Christ. Jésus lui-même, sur la route d'Emmaüs, a expliqué au Luc chapitre 24, a expliqué aux disciples avec qui il voyageait ce qui avait été dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse, les cinq premiers, et ensuite par tous les livres des prophètes, c'est-à-dire ce que je suis et ce que je devais faire, pourquoi je devais venir. Et nous vivons une période que j'appellerais de grande incertitude, et même de grands désespoirs. Une époque comme il y en a eu bien d'autres dans l'histoire de l'humanité. Je n'ai pas besoin de commencer à vous expliquer en long en large, mais notre société, eh bien, vous savez qu'elle se dégrade rapidement. Et ici, nous entendons parler souvent, des nombreux crimes horribles qui surviennent sur le territoire, que nous en sommes devenus finalement insensibles. Ce qui est anormal est considéré comme étant normal, et ce qui est mal, eh bien, maintenant est vu comme étant bien. Et quand vous regardez ce qui se passe autour de vous, vous vous demandez peut-être où se trouve votre place, ou ce que Dieu veut faire dans votre vie, et s'il s'apprête à faire quelque chose, pourquoi vous n'avez pas encore reçu de réponse à vos prières alors que vous savez qu'elles sont en accord avec sa parole? Là, c'est une question que je me suis posée, et j'ai cherché un exemple dans les Écritures, et un des bons exemples se trouvait dans l'Ancien Testament, et j'aimerais qu'on partage ensemble cet exemple. Et pour nous aider à répondre à ces questions, eh bien, je vous invite à plonger vos regards dans la parole de Dieu et à une époque où un sentiment d'incertitude et de désespoir plane sur une nation. Nous allons lire, eh bien, à partir du chapitre 1, les versets 9 à 18. 1 Samuel, chapitre 1, versets 9 à 18. Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Eli était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, c'est-à-dire affligée en elle-même, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » C'est-à-dire qu'elle confiait sa peine au Seigneur. « Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Vous imaginez dans quel état d'âme cette femme était, quoi. Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, que le Dieu d'Israël t'exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions. Seigneur notre Dieu, nous avons chanté tantôt, Seigneur, Christ est notre roi. Et Seigneur, cela nous rappelle que nous sommes citoyens d'un royaume, que tu es celui qui règne sur ce royaume, que tu veux non seulement régner dans ton royaume, mais que tu veux aussi particulièrement régner dans chacune de nos vies. Et Seigneur, tu es notre roi, donc tu es devant nous. Nous sommes tes sujets, nous te suivons, nous marchons. Et Seigneur, nous savons que tu combats déjà pour nous et que tu es en train de préparer un chemin merveilleux, Seigneur, qui nous conduit à la vie éternelle. Merci pour cette parole que tu nous as donnée, que nous puissions ouvrir non seulement nos oreilles ce matin, mais particulièrement nos cœurs, afin de recevoir ce que l'Esprit veut enseigner à son Église. Et tout cela, c'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Le chapitre 2, les versets 22 à 24 et 31, met en lumière des prêtres qui étaient supposés représenter Dieu, mais qui faisaient des compromis avec le péché au point où la réputation de Dieu avait été entachée. Le chapitre 3, verset 1, parle d'une période où la parole de Dieu se faisait entendre rarement, nous dit le texte, et où les visions n'étaient pas fréquentes. Son plan et sa pensée étaient cachés au peuple, laissant les gens sans réponse aux questions qui montaient dans leur cœur. Qu'arrive-t-il à notre société? Où allons-nous? Imaginez l'esprit de découragement qui remplissait le cœur des gens qui venaient au temple. Maintenant, on n'a peut-être pas nécessairement tout le contexte d'un Samuel, mais si vous lisez, il y a, juste avant Samuel, il y a Ruth, et juste avant Ruth, il y a l'époque des juges. Et dans l'époque des juges, le dernier verset nous dit « Chacun faisait ce qui lui plaisait. » Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de chef pour les conduire. Et on est dans cette période-là, quoi. On est dans cette période-là, c'est une société qui est laissée à elle-même. Les prêtres qui devraient diriger la nation, eh bien, les prêtres sont aussi corrompus que la majorité des gens dans la société. Les prêtres, eh bien, ils ont fait des compromis par rapport à la doctrine qu'ils devaient enseigner. Et le peuple est laissé à lui-même, et chacun fait ce que bon lui semble. Pourtant, il y a des gens qui ont encore un cœur attaché au Seigneur à travers cette société qui est malheureuse, qui vit dans le désespoir total et dans le découragement. Et on a une personne en particulier ici, Anne, son mari, Elkana, qui font partie de cette minorité, qui est désolée pour tout ce qui se passe, mais qui continue à intercéder auprès du trône de la grâce de Dieu. Et Anne, pourtant, si vous lisez le chapitre 1, ça fait des années qu'elle se présente au temple, ça fait des années qu'elle fait la même prière à Dieu, et Dieu ne répond pas à sa prière. Et pourtant, quand on regarde le cœur de cette femme, on n'a rien à reprocher à cette femme. Pourquoi Dieu ne répond pas à sa prière, frères et sœurs? Et c'est une bonne question pour nous ce matin. C'est pas parce qu'elle a péché, on va mettre ça de côté. C'est pas parce qu'elle ne s'est pas priée, on va mettre ça aussi de côté. Mais il y a une raison importante pourquoi Dieu souvent ne répond pas à la prière et qu'on oublie. Et je pense que c'est un bon enseignement pour nous ce matin. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de plonger mon regard dans les Écritures et de préparer ce message parce que ça m'a rappelé finalement que souvent on dit « Oui, Dieu, c'est en son temps qu'il répond. » Mais c'est pas pour rien que Dieu attend. C'est pas pour rien que Dieu attend. Et on va voir pourquoi il a attendu tant d'années ici pour répondre à Anne. Le chapitre 3, verset 3, nous parle de la lampe de Dieu qui n'était pas encore éteinte. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Verset 3 du chapitre 3. La parole de Dieu n'était pas encore complètement éteinte, disparue dans le royaume. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore une minorité qui était attachée à Dieu. Et cette minorité, elle intercédait. Elle intercédait pour le monde qui nous environne, mais elle intercédait aussi pour les enfants de Dieu, pour ceux qui faisaient partie du peuple de Dieu et qui avaient délaissé Dieu pour vivre comme le monde, comme l'enseignait le monde. Rappelez-vous, dans Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5, nous parle d'une autre époque où une église avait le privilège de se tenir devant Dieu. Et pourtant, Dieu va lui dire, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et Jésus dira à cette église, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Sinon je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier à ta place. Oui. J'éteindrai la lampe la lampe qui est au milieu de mon peuple. Je retirerai la puissance qui se trouve dans ma parole parce que mon peuple est corrompu. C'est ce qu'est en train de dire Jésus dans l'Apocalypse. En d'autres mots, Dieu est en train de dire à cette Église, il est vrai que lorsque vous vous rassemblez, vous chantez des cantiques, vous vous rappelez ce que j'ai fait dans le passé, mais il n'y a pas de lumière, pas de puissance, aucune vision, aucune direction à suivre. Rien qui puisse permettre à votre foi de brûler dans votre cœur. Comment, rappelez-vous les disciples d'Emmaüs, comme ces disciples qui ont dit à Jésus, qui ont dit après avoir laissé Jésus, eh bien, n'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Frères et sœurs, lorsque vous lisez les Écritures par rapport à la Meuse, par rapport au soir, par rapport à un autre journal, est-ce que votre cœur boue? Est-ce que votre foi, est-ce que votre cœur chauffe? Est-ce que votre cœur brûle pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a une différence entre ce que vous lisez dans les nouvelles au quotidien et ce que la parole de Dieu nous enseigne jour après jour? Quand vous lisez le passage de Matthieu de Luc, chapitre 24, Jésus n'a pas dit grand-chose aux disciples d'Emmaüs. Il n'aura pas fait de menace. Mais ils ont cru qu'il était ressuscité. Et ça fait chaud à leur cœur. Ils sont partis, ils sont allés voir les disciples. Si vous lisez chapitre 4, 24, ils sont allés voir les disciples. Et les disciples lui ont dit, oui, on le sait, Jésus est ressuscité. Et frères et sœurs, le fait de pas de savoir, mais d'avoir la conviction que Jésus était ressuscité, ses disciples ont bouleversé le monde avec le message que Jésus leur avait laissé. Amen. 1 Samuel, chapitre 4, verset 10, nous apprend que les ennemis des Israélites leur firent subir une grande défaite. Il est écrit, ce jour-là, il tomba 30 000 hommes de pied. Le témoignage de Dieu avait été diminué. Et un ennemi était apparu en dictant ses conditions de vie tout en cherchant à imposer sa culture, laissant paraître les membres du peuple de Dieu sans défense. Et pour aggraver les choses, le chapitre 4, verset 13 à 17, nous dit que l'arche de Dieu, qui représentait la présence, la sécurité, la puissance et la provision de Dieu, avait été emportée par les ennemis du peuple de Dieu. Et c'est ainsi que tous les habitants commencèrent à pousser un cri de désespoir. « Hey, Dieu n'est plus là! Nos ennemis sont partis avec l'arche, qui représente la puissance, la provision, la présence de Dieu. » Et là, le peuple, ils sont en plein désespoir. La situation qu'ils vivaient ressemblait à notre époque, frères et sœurs, lorsque nous avons l'impression que la puissance de Dieu, que sa présence, sa provision que nous avons connue à travers l'histoire de l'Église est soudainement disparue. Il semble que les ennemis de Dieu ont désormais la main haute, nous dictant comment nous devons prier, ce que nous pouvons enseigner à nos enfants, ce qui est bien, ce qui est mal. Au Québec, avec la Charte des valeurs québécoises, on est en train de passer une loi où les parents n'auront plus le droit de faire prier leurs enfants. Pourquoi? Parce que les enfants en bas âge sont facilement influençables et on n'a pas à leur dicter leur façon d'entrer dans la vie. On vit une époque de décadence incroyable et c'est mondial. L'ennemi, comme les Philistins, est là pour dicter au peuple de Dieu, pour brimer les choses de Dieu et dicter au peuple de Dieu comment il doit fonctionner. Qui s'élèvera parmi le peuple de Dieu? Qui s'élèvera pour dire assez? Moi, je suis un enfant de Dieu. Moi, je vais vous dire en quoi je crois. Et personne ne peut m'imposer le contraire. Jésus n'a pas eu peur de perdre sa réputation pour dire ce qu'il pensait vraiment. Et je pense qu'il s'attend à la même chose pour ses enfants. Dans le psaume 107, le psalmiste parle de ces périodes d'incertitude et de désespoir qui refont surface à travers l'histoire. Il décrit un peuple qui marchait sans but, qui vivait dans la solitude, qui souffrait de la faim et de la soif, et dont leur cœur était languissant. Ce fut une période marquée par la manipulation stupide de la vérité concernant Dieu, par ceux qui avaient été appelés à enseigner la vérité de Dieu. Finalement, le pays est tombé dans une récession économique à un point tel que même ceux qui vivaient passablement bien commencèrent à perdre espoir. Pourtant, c'est dans ces moments de désespoir que les gens commencent en général à crier au Seigneur, comme c'est le cas aujourd'hui, frères et sœurs. Il y a des gens dans l'Église de Jésus-Christ qui crient au Seigneur pour qu'il y ait un réveil. Pas dans le monde, mais dans l'Église en particulier. Parce qu'une Église réveillée, elle sort à l'extérieur. L'Église qui est réveillée va partager sa joie, la joie et son espérance à l'extérieur. Hey, les Français sont des champions des Valium et des tranquillisants, quoi. Et la Belgique les suit de pas loin, quoi. Et en Belgique, on est un des pays où le taux de suicide parmi les adolescents est le plus élevé. Le Québec, c'est le premier, la Belgique est pas loin dans la liste, quoi. Pourtant, nos enfants, nos adolescents n'ont pas à se plaindre, ils ont tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent, quoi. Ah, aux États-Unis, à 15-16 ans, les jeunes, ils ont des voitures, quoi. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Et pourtant, ils trouvent le moyen de se suicider, ils trouvent le moyen de faire des carnages dans des écoles, dans des cinémas, dans des lieux publics. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une voix qui s'élève dans ce monde pour dire, écoute, il y a autre chose à vivre que ce que tu vis présentement qui va remplir ton cœur, non seulement pour maintenant, mais pour l'éternité. Tu ne trouveras jamais la joie dans le monde que le Seigneur peut t'apporter. Dieu attend que ses enfants en 2014 se lèvent pour proclamer cette vérité. Amen. Je crois qu'on vit exactement la même chose que ce que ces gens ont vécu à l'époque de Samuel, frères et sœurs. Il y a un cri qui se fait entendre dans cette génération, un cri qui n'est pas nécessairement entendu par l'oreille naturelle, mais Dieu entend et Dieu voit. Rappelez-vous lorsqu'il s'est adressé à Moïse et qu'il lui a dit, dans Exode chapitre 3, versets 7 et 8, « J'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu les cris. Je suis descendu pour les délivrer de la main de mes ennemis. » Et frères et sœurs, Dieu est descendu une fois en Jésus-Christ. Et c'est à travers ses enfants maintenant qu'il veut se faire entendre. Et on a besoin de crier à Dieu qui nous donne ce courage de mettre de côté ce qui nous empêche d'être pleinement, pleinement consacrés à son œuvre. Et qu'on puisse proclamer ce message merveilleux que j'ai entendu dans ma vie, qui m'a permis de venir, qui me permet de prêcher aujourd'hui, qui m'a permis de venir en Belgique, qui vous permet d'être ici dans ce lieu ce matin. Et frères et sœurs, le but, ce n'est pas que l'Église se remplisse, c'est que le royaume de Dieu progresse partout sur la terre. Amen. Oui. Je pense que c'est le défi de l'Église en 2014. Frères et sœurs, je n'aurai pas le temps de dire tout mon message ce matin, mais on ne peut pas passer les 15 et les 20 prochaines années. Je dirais même les 50 prochaines années, je ne serai pas là. Donc, les 50 prochaines années, combien on vient de passer les 50 dernières, ce n'est pas vrai, s'il n'y a pas un réveil spirituel. Vous allez avoir peur de laisser sortir vos filles dans la rue s'il n'y a pas un réveil spirituel. Et moi, je suis assez vieux, hein? Dans les années 60, les gens allaient dormir, les vitres baissées des voitures, quoi. Et malheur à celui qui mettait la main dans une voiture qui se faisait prendre, il montait pour 5 ans de prison et il n'y avait pas de libération conditionnelle, quoi. Alors avant de mettre ta main à quelque part où tu n'avais pas le droit, tu y pensais deux fois, quoi. Je connais un gars de 16 ans, moi, qui a volé un vélo. Il a fait 2 ans de l'école de réforme, quoi, jusqu'à 18 ans pour un vélo, quoi. Aujourd'hui, tu peux en ramasser des tonnes de vélos, hein, oui. Tu peux en ramasser des tonnes, quoi. Hey, on ne peut pas penser, mais le monde est aveuglé, quoi. Il y a un ennemi derrière tout ça qui aveugle nos gens, quoi. Et on dit que la société évolue. Mais frères et sœurs, oui, elle évolue. Elle évolue de plus en plus vers le mal, quoi. Et les gens sont impuissants à changer quoi que ce soit. Les gens du monde sont impuissants. Mais Dieu, à travers ses enfants, Dieu, à travers l'Église, est capable de mettre un frein à cette roue de vice et de débauche qui retourne dans notre société pour inverser et faire en sorte que des gens puissent entendre le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Lisez ce livre, « Que ferait Jésus à ma place? » Et je ne vous donne pas avant la 15e page, vous allez pleurer. Vous allez pleurer avant la 15e page. Et vous allez vous poser la question, qu'est-ce que je vis, moi, en tant que chrétien, quoi? Qu'est-ce que je vis en tant que chrétien? Qu'est-ce que je fais avec les dons que Dieu m'a donnés, quoi? Est-ce que je les garde d'une manière égoïste pour mes besoins personnels? Ou si je les distribue autour de moi, ces dons? Pour en faire bénéficier le plus grand nombre possible, quoi. Qu'est-ce que je fais avec l'argent que je reçois de Dieu, quoi? Est-ce que j'essaie d'agrandir mon patrimoine? Est-ce que j'essaie de m'enrichir? Est-ce que je ne me rappelle pas que je suis l'intendant de ce que je possède et non pas le propriétaire? Qu'est-ce que je fais avec les moyens financiers que Dieu me donne pour ceux qui sont dans la misère, quoi? Aujourd'hui, le Seigneur entend les cris de ceux dont les rêves ont été brisés. Il entend les cris des parents dont les enfants sont disparus dans le monde, séduits et endoctrinés dans un système de valeurs qui se moque des choses de Dieu et dans lequel ils ont décidé de vivre. Frères et sœurs, entendez-vous les cris des gens qui demandent « Qu'est-il arrivé à notre société? Qu'est-ce qui nous a aveuglés à ce point pour que nous osions manipuler la vérité de la parole de Dieu avec tant d'indifférence et d'insouciance que nous ne ressentons pas la vie de Christ en nous? Tu nous avais pourtant avertis, Seigneur, car c'était clairement écrit, mais nous avons refusé d'écouter, poursuivre nos propres chemins, nous dit la parole. » Quelle est alors la réponse du Seigneur lorsqu'un cri se fait entendre dans le cœur des tant de gens? Je crois que nous trouvons la réponse dans le premier livre de Samuel, dans les versets que nous avons lus au tout début. Dieu permet une période d'incertitude et de désespoir, non seulement parmi les nations, mais dans le cœur de ceux aussi qu'il s'apprête à utiliser pour appeler son peuple à revenir à lui. Et c'est là que nous en sommes, vous et moi, aujourd'hui. Et à l'époque, et à cette époque, pardon, se fait à travers une femme stérile qui s'appelle Anne que Dieu va intervenir. Il est écrit dans 1 Samuel, chapitre 1, versets 6 à 10, que sa rivale, c'est-à-dire qu'on sait que le mari de Anne avait deux femmes, quoi. M'en allais dire Pierina, mais ce n'est pas Pierina qu'elle s'appelait. C'est Pénina, voilà. Pénina et Anne. Elkana avait deux femmes. Pardon. Avait deux femmes. Et à chaque fois que Anne montait au temple pour prier, pour intercéder année après année, eh bien, Pénina, elle se moquait. Elle se moquait d'Anne. Le texte nous dit, sa rivale lui prodiguait des mortifications, c'est-à-dire qu'elle cherchait à la vexer pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et pendant des années, eh bien, il en fut ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina, eh bien, cherchait à la vexer de la même manière. Alors, elle pleurait et elle ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui disait, on a vu les versets jusqu'à 10, il lui disait, pourquoi tu pleures, pourquoi tu ne manges pas, pourquoi ton cœur est-il si attristé? Est-ce que moi, je ne vaux pas mieux que deux fils? Et Anne se leva, et après que l'on eut mangé et bu à Silo. Et là, eh bien, elle va arriver vers le sacrificateur, vers Élie, qui était assis à la porte. Et l'amertume dans l'âme, le texte nous dit, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Et nous voyons ici, nous pouvons voir ici, on n'a pas besoin d'avoir fait des cours à l'université, pour réaliser que Anne est dans un état de désespoir total, quoi. Un état dans lequel certains d'entre nous se trouvent peut-être ce matin. Remarquez que ce désespoir est différent du désespoir que nous retrouvons chez ceux qui vivent sans Dieu, qui commencent à crier lorsque les circonstances commencent à les submerger et lorsque le désespoir et le découragement remplissent leur cœur. Ce n'est pas ce même désespoir, quoi. D'un autre côté, eh bien, on ne fait pas partie. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas partie des gens qui sont sans espérance. Nous avons une espérance, quoi. Nous savons que nous ne pouvons pas, que l'Église n'est pas appelée à régner en ce monde. Il n'y a aucun verset. Ça, c'est un esprit capitaliste de penser. Hein, quand j'entends des chants des fois, « Oui, partons combat, envahissons les villes, régnons sur ce monde. » Ça, c'est un esprit capitaliste parce que nulle part dans la Bible, la parole nous dit qu'on va régner sur ce monde. On est appelé à régner dans le royaume de Dieu. On est appelé à être une lumière dans ce monde. On n'est pas appelé à régner dans ce monde. Christ n'est pas mort pour régner dans ce monde. Christ est mort pour délivrer les hommes afin de les amener dans son royaume où on va régner avec lui pour l'éternité. Amen. Ça, c'est important qu'on fasse cette distinction-là et ça va nous empêcher d'être très agressifs envers les gens qui ne veulent pas vivre cette vie que nous vivons et appartenir au royaume dans lequel nous baignons. Peut-être que dernièrement, vous vous êtes demandé pourquoi le Seigneur n'avait pas encore répondu à votre prière. Et aussi loin que vous pouvez vous souvenir, vous n'avez pas prié pour satisfaire des besoins égoïstes. Non, vous lui avez demandé qu'il vous rende libre, car vous avez lu dans les Évangiles que Jésus vous promet la liberté. Ne nous a-t-il pas dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ne nous a-t-il pas dit aussi que nous aurons la vie et que nous l'aurions en abondance? Chaque fois qu'Anne montait au temple, elle devait se poser les mêmes questions dans son cœur. Année après année, elle se rendait au temple demandant à Dieu quelque chose qu'elle croyait être sienne. Rappelez-vous, frères et sœurs, combien il était important pour une femme d'avoir des enfants dans la culture juive, car il définissait les gens à cette époque, quoi. Et quand je suis allé à un séminaire en Alsace, au mois de mars l'année passée, j'ai voyagé pendant deux heures avec une juive qui s'appelait Sarah et qui s'est assise finalement, qui est venue s'asseoir en avant de moi. Et on a pris un temps. J'ai partagé ma foi. Elle m'a partagé qu'elle fréquentait la synagogue à Nancy, tout ça. Et puis bon, que c'était très communautaire là-bas, et ainsi de suite. Je lui disais, écoutez, est-ce que c'est encore vrai ça, quand une femme n'a pas d'enfant chez vous, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle est maudite? C'est une malédiction? Vous voyez, c'est comme une malédiction. Elle nous a dit oui. Mais on ne la rejette pas. Ce qu'on fait, j'ai trouvé ça formidable, hein, parce qu'elle m'a dit que ça marchait. Elle dit, il y a des femmes qui essaient pendant des années d'avoir des enfants qui ne sont pas capables. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a une femme qui vient d'accoucher, eh bien, la femme qu'on sait qui désire avoir des enfants qui n'en a pas, on prend le bébé et on le met dans les bras de cette femme-là pour qu'elle puisse en occuper tout le temps qu'elle est à la synagogue. Alors, elle serre le bébé contre elle et il dit ça, elle dit, écoutez, je ne parle pas d'aujourd'hui, mais apparemment que c'est une recette juive, en tout cas, ça date des siècles et des siècles. Elle dit que ça provoque en elle, finalement, quelque chose qui peut amener à faire en sorte de déclencher, finalement, une grossesse. Moi, elle m'a dit que ça marchait, quoi. Je n'ai pas vérifié, mais elle m'a dit que ça marchait. Et c'est un moyen pour les femmes juives, en fait, d'enlever cette malédiction ou d'empêcher cette femme de se sentir rejetée, finalement, par la communauté. Mais à l'époque de Anne, c'est une malédiction, quoi. C'est une malédiction de ne pas avoir d'enfant. Alors, on peut s'imaginer, dans sa tête, là, la tristesse et le regard des autres, quoi. C'était le plus profond désir du cœur d'Anne et elle savait qu'elle priait le Dieu qui pourvoyait pour tout, pour qui rien n'était impossible. Pourtant, pour une raison qu'elle ignorait, il retenait la réponse à sa prière. Ça vous est déjà arrivé, vous, ici, dans la salle, que Dieu retienne sa réponse à une prière que vous aviez faite? Je suis tout seul ce matin. Ah, OK. Oui, hein? Et on dit, pourquoi, Seigneur, tu n'as pas répondu? Pourquoi tu ne réponds pas? Qu'est-ce que tu attends, Seigneur? Frère, c'est ça, je peux imaginer l'ennemi en train d'accabler, lui disant, regarde-toi, stérile. Dieu doit être fâché contre toi. Pas étonnant qu'il ne répond pas à ta prière. Et pendant ce temps, la nation, eh bien, elle s'éloignait davantage de Dieu et elle s'enfonçait de plus en plus profondément dans le désespoir. Les Philistins s'étaient rassemblés aux frontières du pays, étant de plus en plus audacieux et étant de plus en plus nombreux. Avec l'intention, quoi, des Philistins, de faire disparaître le témoignage de Dieu sur la terre. Alors, vous pouvez vous imaginer, frères et sœurs, jusqu'à quel point dans son ensemble, la situation était désespérée. Dieu ne répondait pas à sa prière, à moins, bien sûr, que Dieu attendait quelque chose qui apparaisse dans son cœur, que nous ignorions et qu'elle ignorait. Et Dieu, souvent, attend de répondre à nos prières parce qu'il attend qu'il y ait quelque chose qui apparaisse dans notre cœur, que nous ignorons. Mais à travers certaines choses qu'il va provoquer, il va nous amener à réaliser que c'est ça qu'il attendait de notre part. Et j'aimerais vous partager ça ce matin. Anne était tellement désespérée qu'elle ne pouvait même plus prononcer un seul mot. Frères et sœurs, vous est-il déjà arrivé de vivre ce genre de situation dans vos moments de prière? Moi, ça m'est déjà arrivé. Vous commencez à prier et vous dites, « Ah, Seigneur, tu sais. » Et là, vous ne savez plus quoi dire, quoi. Vous n'êtes plus capable de sortir un seul mot de votre bouche. Parce que je pense que vous avez tous expérimenté ce genre de choses. Hein? Vous dites, écoute, ce matin, chaque matin, je prends mon temps de prière, je me mets en prière, et là, vous avez lu la parole avant, vous la lisez après, dépendant de votre façon de faire, et là, vous entrez en prière, et finalement, vous avez un paquet de sujets, un paquet de choses à faire monter devant le trône de la grâce de Dieu, et là, vous dites, Seigneur, je viens devant toi ce matin pour... Et là, il n'y a plus rien qui sort, quoi. Vous êtes déjà arrivé, ça? Moi aussi. Il est écrit que parce que nous appartenons à Dieu, parce que nous sommes tous appelés à le glorifier dans notre génération, il va nous inciter à prier, mais notre désespoir sera tellement grand face à ce que nous voyons que nous ne saurons pas sortir une seule parole. Et c'est à ce moment-là, comme il est écrit dans Romains 8, 26, que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Ce n'est pas une formule de Jean Cudon, je suis en train de vous dire, je vous cite les Écritures. Quoi. Il est déjà arrivé de voir un frère ou une sœur tomber dans un péché assez terrible. Il était à cœur de prier pour ce frère-là, mais il était tellement dans la peine, tellement dans le désespoir qu'il n'y a pas de parole qui sorte de ta bouche. Quoi. tu sais pas comment l'exprimer au Seigneur, pourtant il est capable de lire dans nos cœurs, quoi. Dans le psaume, il dit que même quand on pleure en prière, il est capable de lire dans les larmes ce qu'on voulait exprimer, quoi. Mais Paul, dans Romains chapitre 8, 26, il dit, écoute, l'Esprit nous aide, l'Esprit t'aide dans ta faiblesse, parce que tu ne sais pas ce qu'il convient de demander dans tes prières. Nous prions, mais nous ne connaissons pas vraiment la raison pourquoi Dieu nous appelle à prier pour une situation particulière. Permettez-moi de le relire. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, dit Paul. Nous prions, mais nous ne comprenons pas vraiment toujours pourquoi nous prions. Qu'est-ce qui fait que nos prières devraient être entendues? Parce que nous ne comprenons pas nécessairement toujours le but de Dieu. En fait, personne ne peut le comprendre parfaitement. Et Paul continue. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et moi, ça m'est déjà arrivé, je ne comprenais pas. Particulièrement au début de ma vie chrétienne, où je venais, me présentais, et là, il y avait un petit bout qui sortait, et là, je venais pour continuer. Mais c'est ça, les soupirs inexprimables, hein? Tu sais pas, on ne connaît pas nécessairement le plan de Dieu. On a à cœur telle personne, on ne sait pas nécessairement, on a une idée de ce qu'on devrait dire, mais on ne sait pas vraiment comment l'exprimer et qu'est-ce qui arrive, l'Esprit nous permet de l'exprimer dans un soupir inexprimable, nous dit l'apôtre Paul. Est-ce que vous êtes arrivé déjà de vivre cela, frères et sœurs? Amen. Un cœur qui gémit, vous ne savez pas vraiment pourquoi et vous ne savez pas vraiment où cela va vous conduire. Soyez rassurés, frères et sœurs, car Dieu a un but en agissant ainsi. L'Esprit de Dieu s'est révélé dans votre cœur et cela n'est pas un accident que cela arrive dans un moment particulier de l'histoire. Vous gémissez non pas à cause des circonstances extérieures, mais parce que c'est Dieu qui a placé ce fardeau dans votre cœur. Nous ne sommes pas toujours conscients, nous ne le comprenons pas tout le temps, mais il est évident que Dieu désire faire quelque chose par vous et en vous. Amen. Si Dieu n'avait pas eu besoin de ses enfants à partir du moment où on est sauvé, il nous aurait changé en statue. Il aurait dit, voici ma collection de statues. Attendez que mon fils revienne vous chercher. Vous allez reprendre vie dans un corps glorifié et vous allez régner avec moi pour l'éternité. Dieu ne nous a pas changé en statue. Dieu nous a changé notre cœur pour qu'on puisse amener, partager cette nouvelle vie, cette nouvelle espérance qu'on a reçue de la part de Jésus-Christ. Ah, ça c'est extraordinaire. Ça c'est extraordinaire. Alors qu'elle vient apporter sa prière au temple, année après année, alors qu'elle est complètement désespérée, il est écrit qu'Anne va finalement faire un vœu. Voilà ce que Dieu attendait! Pendant toutes ces années, intercède devant le trône de la grâce, je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un enfant. Et là, regardez ce qui va changer complètement la puissance de sa prière devant le trône de la grâce de Dieu. Regardez le texte ici. Verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur la terre, sur sa tête, pardon. Frères et sœurs, voilà où Dieu voulait l'amener. Voilà ce que Dieu attendait d'elle. Si tu me permets de donner la vie à un enfant, si tu me fais ce cadeau de la vie, si tu fais prendre connaissance ou naissance, tu fais prendre quelque chose. Voyons, on va finir par le trouver. Si tu fais naître en moi, voilà, quelque chose. Dans mon cœur te concernant, je ne le garderai pas pour moi, je ferai en sorte que cela te glorifie. Lisez-la comme fou, le verset 11. Hein? Ouais. Je le conduirai dans ta maison et tu l'utiliseras pour ta seule gloire tant et aussi longtemps que tu le voudras, mon Dieu. Elle ne savait pas que c'était la réponse que Dieu attendait d'elle. Elle ne savait pas que c'était la sorte de désespoir auquel Dieu s'attend à voir chez son enfant pour répondre à sa prière. Lisez les réponses des prières dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. C'est souvent les prières où les gens pleuraient que Dieu a exaucé les prières. Cette femme, elle est au bord du désespoir. Année après année, elle vient. Et je m'imagine le poids de culpabilité qui devait l'envahir quand elle quittait le temple, qu'elle revenait à la maison, que le premier mois se passait, le deuxième, le sixième, le onzième, qu'elle n'avait jamais et qu'elle n'était pas encore enceinte. Imaginez-vous le poids. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, Seigneur? Pourquoi tu ne réponds pas, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai, moi, que les autres ont? Qu'est-ce que j'ai pas que les autres ont? Vous imaginez comment l'ennemi devait s'acharner sur cette pauvre femme. Mais Dieu attendait quelque chose, quoi. Et voilà pourquoi Dieu doit souvent attendre avant de répondre, et ça jusqu'à ce que nous en venions à être désespérés comme l'était Anne. Frères et sœurs, vous priez pour le monde à l'extérieur? Vous priez pour la condition du monde à l'extérieur? Êtes-vous désespérés de la condition du monde à l'extérieur? Dieu va commencer à répondre aux prières de ses enfants concernant ce monde quand nous serons désespérément à court d'arguments devant le trône de la grâce de Dieu pour que Dieu intervienne. Et dans la prière de Anne, frères et sœurs, à travers son vœu, « Seigneur, si tu réponds à ma prière, je te consacrerai sa vie. Seigneur, si tu veux bouleverser le monde, bouleverse d'abord ma vie. » Et je te promets que je me consacrerai entièrement à toi. Frères et sœurs, de présenter une liste de prières au Seigneur en toute indifférence, on va attendre l'éternité pour que Dieu réponde. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Jésus était désespéré de voir la condition spirituelle des gens de Jérusalem. Et Dieu l'a exaucé, puisque Dieu lui a permis de se rendre jusqu'au bout, pour que les cœurs changent dans la ville de Jérusalem, pour que les cœurs changent autour de la Samarie, pour que les cœurs changent en Europe, pour que l'Évangile se répande aux États-Unis, au Canada, en Asie et partout dans le monde. Jusqu'à ce qu'on en vienne à être désespéré comme Anne, à un point où nous en arrivons dans notre cœur à dire au Seigneur que lorsqu'il nous aura répondu, nous ferons en sorte que la bénédiction qu'il va nous accorder, eh bien, puisse le glorifier. Je vais me consacrer à toi, Seigneur, si tu réponds à ma prière. Je te promets, Seigneur, qu'il n'y a plus de compromis dans ma vie. Seigneur, tu connais mon fardeau face à une telle prière. Seigneur, si tu réponds, Seigneur, je vais me consacrer entièrement à toi. Plus de compromis dans ma vie. Et je ferai en sorte, et c'est pas moi qui le dis, c'est elle, hein? Et je ferai en sorte que ma vie puisse te glorifier. Vous pensez un instant, là, cette femme-là, elle est stérile. Hein? Le texte nous dit, rendue stérile par Dieu. Dieu avait un plan à travers cette femme-là. Hein? Il avait un plan. Hein? Elle était devenue au monde normal. Hein? Dieu l'a rendue stérile, quoi. Parce que Dieu avait un plan, Dieu voulait se glorifier à travers elle, mais il voulait l'entendre de sa bouche, quoi. Vous savez pourquoi? Parce que s'il n'avait pas entendu de sa bouche, le prophète Samuel, un des grands prophètes qui sera son premier fils, eh bien, il serait allé parmi le peuple et dit, « Vous avez vu ce que j'ai accouché, moi? » Il n'y a pas un qui a accouché d'un prophète comme moi. Hein? Extraordinaire, regardez-le parler. Regardez-le comment Dieu agit, quoi. Elle aurait été imbue d'elle-même, quoi. C'est moi qui ai créé ce fils. Regardez toutes les capacités qu'il a eues parce que moi, j'ai su l'éduquer. Mais Dieu va l'amener à un point tel qu'elle va faire un vœu de le consacrer à l'Éternel pour qu'il puisse se glorifier à travers ce Fils. Frères et sœurs, c'est la même chose pour nos prières aujourd'hui. Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand on se présente devant le trône de la grâce de Dieu, qu'on est conscient de notre petitesse, de nos faiblesses, que sans lui, on ne peut pas rien faire, et qu'on vient lui apporter une réponse, « Seigneur, fais un réveil dans ce pays, la première chose que Dieu veut entendre, réveille-moi d'abord, Seigneur. » Réveille-moi d'abord pour que les morts puissent être réveillés. Et Seigneur, je vais te consacrer ma vie. Et ma vie dorénavant ne servira qu'à te glorifier. Que ça puisse être votre prière pour 2014, frères et sœurs. Que ça puisse être votre prière pour 2014. Que ferait Jésus à ma place? Ouais, face à cette populace à l'extérieur, il pleurait. Eh bien, Seigneur, ne me permets pas de verser des larmes de crocodile. Mais donne-moi cet esprit de compassion qui animait ton fils, qui était ému de compassion quand il voyait cette foule sans berger, quand il les voyait tous aller à l'abattoir, sans s'en rendre compte. On est rendu dans une société, quand on enterre quelqu'un, chers amis, surtout une célébrité, les gens à l'extérieur, si vous leur demanderiez pourquoi ils applaudissent, ils ne savent pas. Hein? Les gens sont aveuglés par un esprit démoniaque dans ce monde, quoi. Nous, on sait où elle s'en va, la personne, si elle n'a pas pris une décision pour le Seigneur. Et moi, je ne suis pas prêt à applaudir là-dessus. Mais il y a un esprit beaucoup plus malin derrière qui est là, qui stimule la foule. Applaudissez, applaudissez. Le temps que vous applaudissez, vous oubliez, vous allez passer l'éternité. Applaudissez! Non. Frères et sœurs, l'Église devrait pleurer, devrait être en désespoir, comme cette âme, cette femme âme, devant la situation dans laquelle notre société baigne. Frères et sœurs, elle a voulu se consacrer au Seigneur. Elle a voulu le consacrer au Seigneur, et je termine avec ça. Elle a voulu. Elle a fait ce vœu de le consacrer au Seigneur. Frères et sœurs, elle n'a pas eu peur de perdre la bénédiction que Dieu lui avait donnée à travers Samuel. Lisez le texte. Elle a eu par la suite 5 enfants. Cette femme qui avait été rendue stérile, la bénédiction s'est multipliée par 5 après avoir eu Samuel. Frères et sœurs, prenez-vous conscience que si on consacre notre vie au Seigneur, que si on se donne entièrement à lui, et que notre seul but, c'est de le glorifier, Dieu va multiplier les bénédictions dans vos vies. Elles seront peut-être équivalentes aux persécutions, aux tribulations que vous allez vivre. Mais rien qui peut nous empêcher de nous réjouir, de recevoir des bénédictions multiples de la part de Dieu. Et Dieu, je pense que c'est ce qu'il veut en 2014. Pas une Église qui veut se gaver de connaissances, mais d'une Église qui va mettre en pratique ce que la parole de Dieu lui demande. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Et à travers la parabole du Samaritain, le Seigneur nous rappelle que notre prochain, ce n'est pas juste nos frères et sœurs en Christ, ce sont nos frères et sœurs qui ont perdu cette image de Dieu à cause d'Adam, qui n'ont pas encore retrouvé, et que Dieu veut les ramener dans la bergerie. Amen. Amen. Que Dieu puisse vous bénir en 2014, et qu'on puisse se stimuler à travers les communions fraternelles, à travers ce livre que ferait Jésus à ma place, et nous verrons Dieu accomplir de grandes choses. Amen. Je vous invite à vous lever. On va